Je vais vous présenter des résultats pour le moment partiels qui sont nés en fait à partir de travaux menés dans le cadre de l'Atlas Linguorum Europae, hein, l'Atlas linguistique d'Europe, un atlas multilingue, un vaste projet international qui est né dans les années 80, et l'Atlas linguistique roman, la Lyre, qui lui en fait est une autre coopération internationale aussi, mais qui est issue de l'Atlas linguistique européen. C'est-à-dire on retrouve un peu en partie les mêmes chercheurs dans le second projet. Et c'est aussi un travail qui est mené en collaboration avec Jean Ledu, hein, qui est professeur émérite de Celtique à l'Université de Brest. Et enfin, Elisabetta Carpitelli, professeur en sciences de langage, et Guylaine Brintrigaud, ingénieur CNRS, qui sont toutes les deux chercheuses au laboratoire BCL, Base, Corpus et Langage de Nice. Donc des gens qui sont spécialisés dans le domaine roman et de la Méditerranée. Cette communication, elle est aussi étendue aux données fournies par l'Atlas linguistique de la faune de Bretagne, qui avait été, donc c'est le CD qui est publié ici en 2008, et qui avait été réalisé par Alain Lebert dans les années 60, à une époque où les parlers bretons étaient les parlers principaux par les pêcheurs de Basse-Bretagne, donc un moment où ils étaient très vivants. Je me suis aussi appuyé, dans la mesure du possible, sur les données dialectales de gallo-romanes, hein, que l'on trouve en France, en particulier celles de René Le Play et aussi Jean-Léo Léonard, qui a fait des études à l'île de Noirmoutier, l'île Dieu, et parfois aussi certaines données accessibles dans le FEV, hein, le Französisches Etymologisches Wörterbuch. S'appuyant sur les travaux de l'ALE, hein, dans les années 80, plusieurs scientifiques ont reconsidéré l'origine des langues indo-européennes en s'appuyant sur les informations géolinguistiques et les découvertes récentes en archéologie et en paléo-anthropologie. Hein, jusqu'à ces époques-là, hein, en général, la théorie traditionnelle qui était avancée, c'était la théorie dite des Kourganes, et qui était notamment défendue par des archéologues comme Goldenschild et Maria Gimbuntas, et qui expliquait la formation des langues européennes à partir d'une proto-langue qui aurait été, soi-disant, déjà parlée dans le sud de la Russie au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Hein, et cette théorie est centrée sur l'idée d'un peuple de guerriers nomades caractérisé par une organisation patriarcale, une religion céleste et se déplaçant à cheval et qui aurait envahi l'Europe au début de l'âge des métaux. Alors, ce peuple-là se serait soi-disant imposé aux peuples autochtones d'Europe et d'Asie occidentale et aurait, dans le même temps, remplacé leur langue et leur culture. Ces peuples autochtones que nous avons pris l'habitude de nommer par convention pré-indo-européens auraient eu un mode de vie à l'opposé de celui de leurs envahisseurs. En effet, ils n'étaient pas pasteurs nomades, mais agriculteurs sédentaires. Ils n'étaient pas non plus guerriers, mais pacifiques. Enfin, leur organisation sociale était matriarcale et non patriarcale. Et leur religion n'était pas céleste, mais terrestre. Donc, on a vraiment quelque chose d'antinomique. Alors, dans le modèle indo-européaniste, on situerait l'apparition des Celtes en Europe centrale vers la fin de l'âge du bronze, hein, environ 8e siècle avant Jésus-Christ, selon cette théorie traditionnelle. Alors, cependant, voilà, les découvertes archéologiques des 30 dernières années ont démontré à une écrasante majorité que ce modèle n'a pas vraiment d'assises scientifiques solides. On n'a jamais trouvé aucune preuve de l'invasion indo-européenne à l'échelle du continent indo-européen. Hein? On n'a non plus trouvé aucune preuve de la rupture radicale à laquelle on pourrait s'attendre dans les repères culturels en usage au début de l'âge des métaux. Et si une invasion importante s'était produite, il est tout de même curieux qu'on n'ait pas de traces. Mais il faut aussi rappeler à ce propos qu'au moment où les études indo-européennes ont été inventées et se sont développées au 19e, 20e siècle, il faut rappeler comment les travaux historiques et préhistoriques reposaient encore vers 1860 sur une chronologie très courte, hein, qui remontait seulement de 5000 à 7000 ans selon les auteurs de l'époque. Et cette chronologie courte a quelques conséquences importantes. Elle produit l'idée d'une équivalence entre langue et culture qui se répand. Hein, c'est-à-dire les cultures historiques sont considérées comme des fidèles corrélats synchroniques de leur langue. Autre point, admettre une chronologie très courte favorise la conception d'une évolution linguistique très rapide, selon le modèle d'évolution radiale de l'arbre, hein, qui lui-même s'appuie sur le mythe de l'homogénéité d'une langue mère à partir de laquelle divergent les langues filles. Cette chronologie courte, elle produit une explication un peu bizarre du changement de langue, perçue comme le résultat quasi automatique de la domination territoriale d'un peuple sur un autre peuple. Hein, c'est-à-dire, on se représente une carte linguistique du monde ancien qui représenterait à peu de choses près le résultat d'invasions historiques. Concernant les cultures et populations celtiques, on peut reprocher à cette chronologie, que je considère un peu comme erronée, d'attribuer aux langues celtiques une origine centre-européenne près de l'Athènes ou Hallstatt et d'élaborer un raisonnement trop exclusivement linguistique sans tenir compte des recherches en archéologie, en préhistoire, en génétique ou en paléoanthropologie qui ont été faites dans les 30 dernières années. Bon, il y a plusieurs chercheurs qui étaient dans l'ALE, et notamment Mario Alinei, qui est lui professeur émérite de l'Université d'Utrecht. Bon, il y a plusieurs chercheurs qui travaillent avec lui. Ce groupe-là a notamment travaillé sur une approche globale et interdisciplinaire des données lexicales fournies par l'ALE et la LIRE. Hein, il a dirigé l'ALE jusqu'en 1998. Et il a montré et développé l'intérêt d'une analyse comparative, non plus simplement tenant compte de la reconstruction étymologique du signifiant, mais basée aussi sur l'aspect motivationnel des formes lexicales étudiées. Et donc, il a mis en place, en fait, ce qu'on appelle le paradigme de la continuité paléolithique. Là, il travaille avec des archéologues comme Marcel Hoth, hein, qui est au service de la préhistoire de Liège. Ce n'est pas un chercheur isolé. Il affirme que la continuité de la présence en Europe des populations et des langues depuis la fin du paléolithique supérieur. Donc, et vraiment, ça nous fait une chronologie beaucoup plus haute. Et il démontre, à partir de concordances entre isoglosses linguistiques, donc issues de ces atlas linguistiques, concordances entre isoglosses linguistiques et aires archéologiques, que le lexique des dialectes européens actuels conserverait pour partie seulement les traits des parlers de la préhistoire la plus ancienne. Il dit aussi que le conservatisme de ces parlers s'explique par la distance sociale énorme entre les couches cultivées de la population et les couches dialectophones, incultes, analphabètes et statiques, donc très conservatrices. Donc, si vous voulez, on se trouve ainsi à l'opposé de la chronologie traditionnelle qui place l'origine des dialectes entre la disparition des langues antiques considérées comme des fossiles et l'apparition des langues modernes au Moyen-Âge. Toujours d'après ce paradigme de la PCP, les populations celtiques auraient constitué, dès la fin du paléolithique supérieur ou le mésolithique, des groupes de pêcheurs ou de gens de mer situés en fait sur un arc atlantique depuis la péninsule ibérique jusqu'aux îles britanniques, en passant par la France et les côtes de la Manche. D'après eux, ce sont les descendants de ces mêmes groupes qui auraient importé d'ouest en est, et non plus l'inverse. La méthode de construction des chambres mégalithiques à couloirs, les vases campaniformes, la métallurgie du bronze. Nous abordons donc l'étude des données linguistiques en considérant comme un nombre de plus en plus important de linguistes, d'archéologues et de préhistoriens, cet arc atlantique, comme l'emplacement des premières populations celtiques en Europe. Donc ce n'est plus un déplacement d'est en ouest, mais d'ouest en est. Des gens comme John Cook, hein, qui étudie notamment les tablettes celtiques qu'on a découvertes dans le sud du Portugal et sud de l'Espagne, qui nomme les inscriptions tartessiennes, penche aussi pour une implantation ouest des Celtes, comme une implantation celto-atlantique. Il y a encore des avis qui divergent entre la période de cette implantation. Il y en a qui penchent plutôt pour la fin du néolithique âge du bronze, ou d'autres pour la fin du paléolithique supérieur mésolithique. Voilà. Alors ça, c'est l'état un peu de la recherche. Donc cela m'amène donc à aborder les variations géolinguistiques que nous procurent les atlas, et d'aborder les concepts de frontières et d'aires linguistiques en essayant d'y porter un regard innovateur sur la répartition des cultures et parlées vernaculaires en Europe. Certaines aires linguistiques bien spécifiques sont encore parfois étudiées sans véritablement prendre en compte les zones linguistiques limitrophes, regardées comme, parfois comme trop étrangères. Ainsi, les aires celtiques sont souvent traitées à part et demeurent souvent de véritables marges atlantiques. Or, la comparaison de ces zones avec l'ensemble des parlers romans, germaniques, peuvent proposer de véritables perspectives de recherche très prometteuses, et c'est ce que je vais essayer de vous développer ici à partir de quelques exemples. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que le croisement ou la complémentarité, dans certains cas, des domaines romans et celtiques, permet, par exemple, d'éclaircir des formes lexicales qui demeurent opaques dans la première ère celtique, mais toujours transparente dans la seconde, hein, quand on étudie la motivation lexicale, par exemple. Donc, cela peut mettre à jour l'existence de continuateurs, d'aboutissants, restés jusqu'alors inaperçus. Mais avant de voir ces quelques exemples de désignation lexicale qui mettent en évidence la complémentarité des aires linguistiques entre elles, je vais vous faire peut-être quelques rappels pour ceux qui ne connaissent pas bien ou ont un peu oublié la géographie linguistique de l'ère des parlers celtiques. Bon, les langues celtiques qui sont encore parlées actuellement, donc vous avez deux groupes. Groupe gaélique, vous avez le gaélique d'Écosse, hein, ils sont tous sur les péninsules ouest de l'Europe. Le gaélique d'Irlande, qui concerne encore les péninsules occidentales de l'Irlande. Le gallois, et enfin les parlers bretons. Alors, quel est le nombre de locuteurs ? En gaélique d'Écosse, vous avez à peu près... aujourd'hui, 60 000 locuteurs. Je parle en locuteurs traditionnels. Hein. Gaélique d'Irlande, 70 000. Et gallois, 400 000. Et breton, un peu moins de 200 000 aujourd'hui. Quelques rappels sur la géographie linguistique de la Basse-Bretagne. À l'ouest, la zone celtique ou zone bretonnante, qui correspond en gros aux quatre anciens évêchés pré-révolutionnaires, hein, qui étaient le Léon, Trégor, Cornouailles et Vannetais. Donc il y a une première limite linguistique entre la zone celtique et la zone gallo-romane. Et dans la zone celtique, on peut distinguer une dualité dialectale entre les parlers du nord-ouest et les parlers du sud-est, et une sorte de zone intermédiaire qui constitue une sorte de zone centrale dialectale. Mais évidemment, ce sont des traits principaux essentiellement. Donc une dualité nord-est-sud-ouest, hein, qui, selon François Falhain et les linguistes qui ont suivi, François Falhain est le premier qui a étudié les données linguistiques à partir de l'atlas linguistique de Basse-Bretagne. Et selon lui, la dualité dialectale nord-ouest-sud-est correspondrait, selon lui, à la frontière ancienne qui existait entre les tribus gauloises des Aucismes et des Vénètes. Hein. Bon, alors les historiens ne sont pas, ou les archéologues ne sont pas tout à fait d'accord sur cette limite. Donc, des variations dialectales très anciennes, hein, qui remonteraient donc au moins à la période gauloise, voire antérieure. Alors, venons-en aux désignations proprement dites, où l'on peut noter des concordances géolinguistiques en zone atlantique. Alors, la première série de désignations concerne les appellations de la vieille, hein, ou du Labre, de part et d'autre de la Manche. Hein, donc, plusieurs études différentes comparent les termes gallo-roman et le breton. C'est un peu le cas quand on consulte le FEV, hein, le dictionnaire étymologique du français. Parfois, dans certains articles de linguistes britanniques, vous avez un terme anglais qui peut être comparé avec un terme gallois ou cornique. Mais, si vous voulez, à aucun moment, je n'ai trouvé de synthèse regroupant l'ensemble de tous ces termes qui ont entre eux une concordance frappante. Alors, j'ai donc cartographié l'ensemble des formes anglaises et gallo-romanes qui sont apparentées au celtique groire, ici. Hein. Groire, qui désigne la vieille, mais dans un autre registre, désigne aussi la magicienne, La sorcière, la vieille femme, c'est-à-dire une personne à qui on attribue des pouvoirs un peu surnaturels. Groire, vous l'avez vraiment de manière uniforme dans toute la Basse-Bretagne, au Pays de Galles. Donc c'est attesté aussi dans, je vous en ai pas parlé tout à l'heure ici, mais la péninsule de Cornouailles britannique, il y avait des parlers celtiques qui étaient parlés ici jusque 1800 à peu près. Donc on a encore des traces écrites des appellations, notamment des poissons. Et si vous voulez, même si les gens ne parlaient plus, n'étaient plus celtophones, dans les dialectes anglais, on trouvait encore jusqu'à une date récente des gens qui utilisaient pour nommer les poissons des termes proprement celtiques. Alors, si vous voulez, le terme celtique groire, au pluriel groaret, hein, les langues celtiques ont cette particularité que lorsqu'elles sont précédées d'un article, elles ont leur initiale qui mute. Donc de groire, si on met l'article défini ar devant, vous aurez non plus groire, mais arroire. Donc ce qui explique ces formes enregistrées dans les dialectes anglais, roar, et ce qui explique aussi cette forme, cette variante que l'on trouve en anglais, wrath, et ce qui explique aussi, à mon avis, les formes que l'on trouve en Normandie, hein, vrac, vraquet, enfin j'ai répertorié ici ce que j'ai pu collecter auprès de l'ouvrage de Le Play, mais le terme craat, plutôt sur la côte atlantique en Haute-Bretagne et aussi sur la côte atlantique selon le FEV, mais aussi selon une autre source, Cabuzel, qui lui a établi une liste du côté d'Oléron, l'initiale de Groire est ici assourdie, hein, en Crahat. Donc si vous voulez, là on a vraiment une concordance frappante au niveau atlantique, de part et d'autre de la Manche. Ce qu'on peut noter également, c'est que le folklore de ces territoires, en tout cas en Bretagne, ça a été répertorié par quelqu'un qui s'appelait Paul Sébillot. Le folklore de ces territoires comporte de nombreux contes qui relatent les pouvoirs magiques de ce poisson, la vieille, hein, d'où le nom qu'on lui attribue, magicienne, qui est considérée comme l'animal qui a le pouvoir sur tous les autres poissons de la zone rocheuse. Il peut avoir des couleurs qui sortent un peu du commun pour un poisson de l'Atlantique. Alors, une autre série, il s'agit du nom de la sèche. J'ai regroupé à nouveau les désignations gallo-romanes que l'on trouve chez Le Play et dans le FEV, et sont les formes celtiques. Mais bon, j'ai lématisé en ne retenant que deux ou trois variantes. Les désignations gallo-romanes, si vous voulez, elles rendent compte de la zone de diffusion des continuateurs du celtique Morgat. La motivation de ce terme, on peut le découper en mor, mer, et gat, le lièvre. Hein, donc ici, en fait, c'est la Morgat, c'est la forme plurielle ici en breton. Et pour avoir la forme singulière, on ajoute un suffixe. Morgaden, c'est une sèche, hein. Donc mot à mot, lièvre de mer. Et donc ce qui est assez frappant, je ne pensais vraiment pas en trouver jusqu'à Arcachon. À Noirmoutier, on le trouve également. Pour moi, l'extension de cette zone de diffusion semble en tout cas suggérer l'existence d'une ère culturelle atlantique qui aurait été aujourd'hui en partie dissoute dans l'ère gallo-romaine. Les termes utilisés pour nommer le chien de mer. Alors, ce qu'il y a de particulier avec chien de mer, c'est que chien de mer ne désigne pas une espèce de poisson en particulier. Hein, il désigne l'ensemble des squales ou des petits requins que l'on peut retrouver ici sur nos côtes, en Manche, Atlantique et aussi en Méditerranée. Dans les chiens de mer, on regroupe aussi bien la roussette, le poisson A, le requin peau bleue, le requin scie, le requin taupe, l'ange de mer. Hein, l'aiguilla, l'émissole. Enfin, alors, pour répondre à la question chien de mer en breton, on utilise dans certains parlers bretons maritimes les termes mor plus gast. Hein, et parfois, donc vous aurez la forme mor gast et parfois aussi mor hast. Enfin, je vais y venir tout à l'heure, qui peuvent être mutés. Donc, la motivation de ce terme, c'est, donc il y a l'idée de mère et gas qui veut dire aussi chienne ou prostituée. Bon, à côté de ça, vous avez aussi les formes kimor, hein, ou morgi. Donc ki, ça veut dire chien, hein. Et donc ici, lorsque le qualifiant est placé de manière antérieure, là, ça produit une mutation sur l'initiale de qui. Donc, vous aurez morgi. Précision peut-être, lorsque le qualifiant est placé de manière antérieure dans un lexème, dans les langues celtiques, c'est une formation de lexème qui est plus archaïque, si vous voulez, qui est plus ancienne. Donc, le terme le plus ancien, ce ne sera pas qui mort, mais vraiment morgi ou morgast. Alors, en gallois, on a des formes assez proches, hein, morgi, cornique, morgi. Ce gast, là, on le retrouve comme féminin d'un autre quadrupède, le loup, hein, en gallois, blaith, plus gast, là, ça nous permet de former le lexème louve, blaithast, en gallois. Et on trouve une correspondance en irlandais, blaith, qui veut dire monstre ou monstre marin, et blaisk, prostituée. Hein, c'est un peu ce doublon que l'on retrouve aussi en latin, lupa, qui peut à la fois désigner louve et prostituée, et dans l'islandais, greibaka, qui peut désigner à la fois hundin et dirne. Bon, c'est un doublet également attesté. Donc cette motivation de chien de mer se retrouve un peu partout dans les langues en Europe. Hein, en anglais, on trouve houndfish ou dogfish, ou en Italie, en italien, pescecane, et des multiples variantes de pescecane dans le sud de la France, en Corse, en Ligurie. Toutes bel et bien transparentes du point de vue motivationnel. En breton, mohast désigne plus spécifiquement soit le poisson A ou Ha, ou le requin peau bleue. Alors, j'ai pris en considération les variantes obtenues pour le requin peau bleue. J'ai utilisé les données de l'Atlas linguistique maritime de Lebert, et on constate que l'aire de diffusion de mohast, qui est la contraction de mohr plus gast, mohast se trouve vraiment ici à l'ouest, une zone sud dans laquelle on trouve les variantes gast ou gasht ou gast-mohr. Dans les marges orientales de cette zone, hein, la fricative alvéolaire sourde S, hein, mohast, devient une alvéolaire sh. Hein, de mohast, on passe à mohasht. Dans la zone orientale, ici, plus exactement à Plougrescant, et du côté de l'île de Groix, et un petit peu aussi dans le Morbihan, et sur l'île d'Edic. Hein, donc, mohasht. Donc, on a vraiment la fricative alvéolaire sourde S qui devient une post-alvéolaire CH. Et l'on observe également un amuissement de la fricative glottale H. Hein, donc on passe de morast à morasht, ou même marash. Les formes marash, morash, mourash, collectées par René Le Play en Normandie et Sébillot en Haute-Bretagne, permettent de constater au moins une corrélation entre les variantes celtiques et les variantes de la zone gallo-romane. La forme marache, précisons aussi que la forme marache, on la retrouve aussi dans les formes collectées et toujours en usage dans le nouveau Brunswick au Canada, hein, qui, rappelons-le, de la Nouvelle-Écosse, hein, qui a été peuplée par une population qui était originaire de l'ouest de la France. On peut se reporter à l'Atlas linguistique du vocabulaire maritime canadien de Patrice Brasseur. Ces termes marache, on les retrouve également plus au sud, notamment à Bayonne, hein, Maracho en Gironde, et évidemment les variantes Maracho au Pays Basque, Asturie et une partie de la Galice, un peu le Portugal. Concernant les données ibériques, on a l'extrême chance de disposer de données qui ont été répertoriées dans les années 80 par Manuel Alvar, Lexico de los Maritimos Peninsulares, qui a vraiment fait un répertoire très, très riche et très dense du vocabulaire nautique, mais aussi de la faune marine dans toute la péninsule ibérique et également les Açores. Donc, si vous voulez, on peut constater une concordance, mis à part le fait que pour la péninsule ibérique, il ne s'agit plus du requin peau bleue, mais du requin taupe. Mais bon, si vous voulez, quand on fait ces études de géolinguistique, on se rend compte que très souvent, la taxinomie populaire ne correspond pas à la taxinomie scientifique dont on dispose aujourd'hui avec tous nos moyens pour investir les milieux naturels. Oui, et enfin, dans la zone entre la péninsule armoricaine et l'estuaire de la Gironde, vous avez la forme marache qui ne désigne plus un chien de mer, mais la baudroie ou la lotte, si vous préférez. Hein, c'est-à-dire que dans cette zone ici, pour désigner le chien de mer, le plus souvent on aura le terme touille, je ne sais plus si on le retrouve en Normandie. Le terme marache est plutôt utilisé pour désigner un autre type de poisson. J'ai consulté les dictionnaires étymologiques concernant le castillan de Corominas pour expliquer le marajo, en fait. Pour eux, c'est une étymologie inconnue. Ils essaient de proposer des étymologies qui essaient de rapporter le nom du requin par une désignation de chat de mer. Alors, ils donnent comme explication que le chat est sournois et hypocrite, et que marajo donc serait finalement une forme hypocoristique établie de la même manière que le castillan. Corominas, lui, pense que cette proposition qui est généralement faite pour Malajo n'est pas fiable, quoi. Il n'est pas satisfait de l'étymologie que l'on propose pour le Malajo en général. Parfois, concernant les squales, la dépouille de squale, on l'appelle parfois peau de chien. Hein, et que, enfin, la dépouille du chien marin, que cette peau, elle est parsemée de petits grains qui sont terminés en pointe. Et que, autrefois, en tout cas, les ébénistes utilisaient souvent cette peau pour polir les meubles en ébénisterie, par exemple. On pourrait penser que peut-être qu'il y aurait la motivation de dur, dur comme une pierre, dur comme une peau de roussette. Mais bon, ça, quand même pas très fiable. Ce qui amène Corominas à dire que, si vous voulez, les problèmes posés par les formes qui désignent le requin peau bleue ou le requin taupe dans la péninsule ibérique sont difficiles à résoudre du seul point de vue de la reconstruction étymologique du signifiant. Hein, en effet, les désignations basées sur la motivation chien de mer, très largement répandues en Atlantique et en Méditerranée, comme on l'a vu tout à l'heure, seraient, à mon avis, l'explication. Hein, dans les zones gallo-romanes, Normandie et sud-ouest de la France, l'alternance maracho, marache, mourache, chien de mer est très fréquente. Et la notion de voracité due à la manière dont cet animal dévore sa proie est généralement retenue pour parler de ce poisson. Bon, là-dessus, bon, j'avais exposé le problème à des collègues de la péninsule ibérique et ils allaient eux aussi dans ce sens où Moraste celtique permettrait d'expliquer les formes mourache, marache que l'on trouve en zone gallo-romane et marajo, marajo, marachou que l'on trouve en zone ibérique. Voilà, bon, je vous ai présenté ici trois exemples d'un ensemble de désignations de dictonymes où l'on peut constater des concordances, à mon avis, frappantes entre des termes de la zone celtique et de la zone gallo-romane. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans une première zone, parfois, la motivation, elle est vraiment transparente et permet d'éclairer, comme ici, les termes de la zone ibérique, ou parfois, ça peut être aussi l'inverse. Mais l'inverse existe aussi. Et à mon avis, cette collaboration entre spécialistes de différentes aires linguistiques en Europe ne peut être, à mon avis, que bénéfique et de mieux comprendre la répartition des variantes vernaculaires en s'appuyant, évidemment, sur les atlas linguistiques que nous avons produits. Voilà. Merci de votre attention. Merci.